Docteur.
Merci beaucoup pour votre invitation. C'est aussi un honneur pour moi de participer à cette session avec Monsieur Chatrenet. Et je vais essayer volontairement d'être dans le versant le plus chirurgical pour ensuite passer à la phase de rééducation. Globalement, le but de cette communication est de voir un petit peu les objectifs généraux d'une reconstruction du ligament croisé antérieur, avec l'impact sur les objectifs en rééducation, les notions préalables qu'on va voir, les techniques opératoires, globalement, on va faire quelques familles, l'impact des techniques opératoires en termes de fragilisation et de complications et la conduite à tenir en cas de problème, et enfin une synthèse avant de passer à la parole à M. Chatrenet. Alors, la réparation du ligament croisé antérieur par ligamentoplastie, effectivement, est soumise maintenant à des objectifs et surtout à des consensus au niveau de la chirurgie et de la rééducation. Donc la mission du chirurgien est effectivement de rendre la stabilité au genou. La mission du rééducateur est de lui rendre l'indolence, la mobilité, la motricité et le contrôle. Les buts de toutes ces manœuvres, effectivement, est de reprendre l'activité professionnelle en première intention et ensuite, éventuellement, l'activité sportive s'il y en a une. Alors, c'est effectivement quelque chose de très fréquent, hein, d'où le martin. Et le but un petit peu de cette chaîne thérapeutique est de respecter tout au long de cette prise en charge le seuil algique, le néoligament, le site donneur, l'état articulaire du genou, l'évolution et les objectifs de chaque patient. Et pour tout cela, il est très important que vous disposiez du compte-rendu opératoire. Vous allez voir que je vous en reparlerai régulièrement dans la communication. Le compte-rendu opératoire est quelque chose d'impératif et vous devez l'exiger de vos correspondants chirurgiens. C'est quelque chose qui est même dans les recommandations HAS, et je pense que M. Chatrenet en parlera tout à l'heure. Les consignes post-opératoires déterminent le choix des techniques de rééducation et leur application. Alors, globalement, pour, je dirais, voir un petit peu quelques-unes de ces recommandations qui nous intéressent ici cet après-midi, j'insiste encore sur l'importance des courriers de transmission entre les professionnels de santé. Le compte-rendu opératoire doit préciser la cause de l'intervention, les éventuelles lésions associées, ça c'est très important, hein, vous savez qu'en termes de pronostic, ça va changer quand même pas mal de choses, la date de l'intervention, le type et les caractéristiques de la ligamentoplastie, hein, parce que vous allez voir que ça va avoir une incidence sur la suite, et tout événement post-opératoire immédiat significatif, comme une chute en post-opératoire immédiat, ou un problème technique, ou une fragilité osseuse, on en reparlera. Bien entendu, ce document doit mentionner les contre-indications et les consignes post-opératoires, et certaines données préopératoires pourront aider le thérapeute, notamment le secteur de mobilité du genou préopératoire, et le niveau sportif antérieur. L'attente en termes de rééducation, c'est bien entendu la récupération des amplitudes articulaires, la récupération musculaire, avec un équilibrage à retrouver entre le membre sain et le membre lésé. Et ça correspond globalement au verrouillage du genou par le quadriceps avec le contrôle des ischio-jambiers et l'affinement du travail musculaire spécifique en fonction de l'objectif sportif et des muscles concernés. Les notions préalables à notre niveau, la première chose, c'est l'évolution du transplant. Effectivement, ce transplant va être fragilisé. Une fois greffé, immédiatement, on va avoir une nécrose avasculaire jusqu'à la troisième semaine avec une revascularisation. Donc, on appelle ce phénomène la ligamentisation. Donc, c'est une revascularisation à partir de l'enveloppe synoviale périphérique qui va débuter à la sixième semaine et qui sera complète à 6 mois. Donc, c'est relativement long. Autre notion préalable, c'est bien entendu, il en découle une baisse de la résistance à l'étirement durant les 6 premières semaines. Donc c'est quand même des périodes particulières où il faut faire très attention, avec une fixation du transplant dans le tunnel osseux entre 6 et 12 semaines en fonction de la technique et du greffon utilisé. On va en parler longuement maintenant. Enfin, une dernière notion préalable intéressante, c'est effectivement les contraintes du ligament croisé antérieur. Et on voit que les contraintes sont essentiellement dans les amplitudes extrêmes, proche de l'extension, après une flexion de 120 degrés, où on a une mise en tension maximale du ligament croisé antérieur, donc attention dans les exercices dans ces amplitudes-là. Toujours, et pour terminer, je dirais les notions préalables que nous avons, nous, en chirurgie, je dirais à notre niveau, parce que effectivement, nous ne sommes pas des kinésithérapeutes, nous ne sommes pas des rééducateurs, donc nous essayons aussi de nous adapter, à tous ces travaux qui sont très importants pour nous. La contraction isométrique, effectivement, le travail en chaîne cinétique ouverte des ischio-jambiers n'a a priori aucune, ou n'entraîne aucune contrainte sur le ligament croisé antérieur. Ça, c'est la première notion qu'on respecte. Et effectivement, par contre, le travail en chaîne cinétique ouverte du quadriceps, lui, va entraîner des contraintes sur le ligament croisé antérieur, essentiellement entre 0 et 40 degrés de flexion, et va entraîner aussi des contraintes sur la fémoro-patellaire. Alors, avec tout ça, on arrive à la technique opératoire. Effectivement, on va voir que globalement, l'influence de la technique opératoire va être très importante hein, sur la rééducation, mais il ne va pas y avoir que le site de prélèvement. Hein, parce que souvent, on a tendance à dire, bon, c'est un Kenneth Jones, donc un tendon rotulien, ou c'est des disques aux jambiers, mais non, il y a le prélèvement, il y a le site de prélèvement, il y a aussi le mode de fixation, vous allez voir que c'est très important, et aussi l'association éventuelle d'un geste extra-articulaire, et tout ça va influer un petit peu sur les suites post-opératoires. Alors, pour schématiser, globalement, on peut, parce qu'elles sont nombreuses, mais je crois qu'on peut résumer ces techniques aux techniques osseuses, donc qui vont consister au prélèvement du tendon rotulien, ou tendon quadricipital, ou globalement à chaque fois qu'on aura une baguette osseuse, des techniques que je surnommerai partie molle, donc ça sera un fascial atar, ça sera des ischio-jambiers, et éventuellement, je dirais ça en vert, c'est plus des techniques qu'on va rajouter, donc c'est ce qu'on appelle une plastique extra-articulaire qu'on a tendance à rajouter pour des raisons particulières, en grosse instabilité, reprise. Et donc globalement, on a trois familles, trois cas de figure. Alors, juste pour que vous compreniez ma position, donc dans ce débat, dans cette communication, je vais essayer de n'avoir aucune tendance, aucune préférence. Effectivement, je réalise beaucoup plus de ligamentoplastie aux ischio-jambiers que le reste, hein, donc, et ça c'est plus une question d'habitude, c'est juste pour introduire une notion. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure ligamentoplastie. Hein, je pense qu'on doit tout savoir faire. Je pense que c'est une question d'habitude. Il n'y a pas de meilleur transplant. Les études ont montré globalement des résultats équivalents. Par contre, des techniques de rééducation différentes. Mais il n'y a pas de meilleur transplant. Il faut juste appliquer les transplants à différents patients. Alors, effectivement, nous sommes très ischio-jambiers parce qu'à Marseille, nous aimons ça, et tout simplement. Alors, le tendon rotulien. Donc, effectivement, le prélèvement du tendon rotulien. Donc, c'est un prélèvement en fait qui va être direct, à ciel ouvert. Des opérateurs décrivent maintenant des techniques en mini-invasif avec uniquement une petite cicatrice proximale et distale. Le péritendon a été ouvert. Donc, vous voyez que c'est une zone en fait qui est richement innervée et vascularisée. On va en reparler ensuite. Et le but en fait, hein, si vous voulez, de ce prélèvement est de récupérer à peu près un ou un peu plus d'un centimètre en largeur de tendon. Pareil pour la circonférence, et on va récupérer une baguette osseuse qui vient de la rotule, donc là on voit le trait qui est en train d'être réalisé au niveau de la rotule, et la même chose donc au niveau du tibia pour se retrouver avec un greffon qu'on appelle os, tendon, os, et on va en reparler, ce qui est quand même l'idéal en termes de consolidation osseuse. Ensuite, les moyens de fixation du tendon rotulien, alors ils sont moins importants, la contrainte osseuse impose seulement certaines techniques, on ne pourra pas utiliser les endoboutons et pas mal de choses qu'on utilisera avec d'autres transplants, mais les techniques de fixation de référence vont être les vis d'interférence ou les techniques avec des petites pins qui vont traverser le greffon. Des études ont montré aussi quelles étaient les meilleures fixations, et effectivement la meilleure rigidité des fixations de tendons rotuliens se font avec des vis d'interférence qui sont des vis avec un diamètre au moins de 8 ou 9, d'après les études, et c'est largement démontré. Globalement, et là vous allez voir que c'est un intérêt, mais ça sera surtout pour les autres transplants, parce que c'est les meilleures fixations. La fixation par vis d'interférence permet une rééducation agressive d'emblée, donc ça c'est aussi intéressant. Donc d'où l'intérêt, comme vous, de disposer du protocole opératoire, hein, pour voir quel est le montage. Cependant, la rigidité de la reconstruction est toujours inférieure à celle du ligament croisé naturel. La résistance, la rigidité de la fixation sont proportionnelles au diamètre de la vis. Et enfin, les études ont largement montré depuis maintenant quelques années qu'il n'y avait pas de différence entre l'utilisation d'une vis métallique ou d'une vis résorbable. Le prélèvement des tendons ischio-jambiers, donc effectivement l'idée c'est de récupérer les tendons droits internes et demi-tendineux. Donc en fait c'est une incision qui effectivement est moins importante, c'est pas pour ça que c'est mieux, donc là aussi je ne veux vraiment pas vous influencer, hein. Je pense que tout est bien. Donc, c'est une question d'habitude, et là effectivement, donc, une fois qu'on a passé la graisse sous-cutanée, une fois en fait qu'on a ouvert la ponévrose du couturier, on va cueillir le premier tendon, hein, donc ici on voit très très bien le droit interne qu'on a mis sur un lac, qu'on est en train d'explorer, et on va utiliser cet appareil qui s'appelle un stripper, hein, donc c'est le même principe que les strippers neurologiques qui sont utilisés depuis très longtemps maintenant. Et regardez, en fait, on met en place le stripper ouvert, on vient charger le tendon et on va aller chercher la totalité du tendon Et donc en fait, avec une traction axiale qui peut aller jusqu'à l'ischio. Ça vous explique pourquoi on a des douleurs postérieures, ou voire même parfois en post-opératoire, des douleurs au niveau de la fesse, hein, parce qu'on va chercher jusqu'à l'ischio, en fait, hein, si vous voulez. Donc là, vous voyez que le droit interne a été récupéré, ensuite, on va faire la même chose pour récupérer le demi-tendineux, et on récupère donc son greffon de cette manière-là. Alors, pour donc cette deuxième famille de transplants, de techniques, alors les moyens de fixation sont beaucoup plus nombreux, hein, donc, et effectivement, on pourra là aussi utiliser des vis d'interférence, mais il y a en fait toute une série d'auteurs et de praticiens qui sortent des, je dirais, des moyens de fixation intéressants. Là, juste pour vous expliquer l'endo-bouton, parce que souvent on a du mal un petit peu à schématiser, à visualiser, l'endo-bouton, en fait, que nous utilisons effectivement dans la région beaucoup, en fait, qui est une fixation intéressante parce qu'elle est extracorticale. On voit très très bien, regardez, la petite cornette de l'endo-bouton qui est passée dans la boucle des quatre brins du tendon, hein, si vous voulez. On passe dans le tunnel fémoral, on va faire flipper la baguette métallique, et ensuite, tout ça va se caler, et on va attendre une cicatrisation. Là encore, je vais parler de la suite. Là, on a une cicatrisation qui va être os-tendon, hein, qui sera de moins bonne qualité qu'une cicatrisation, donc une consolidation os-os. Alors, que demander une fixation, surtout pour des greffons comme, je dirais, les ischio-jambiers, ben, qu'elle soit au moins efficace pendant 8 à 12 semaines, hein, parce qu'il faut que ça prenne, hein, il faut que ça consolide, d'être adapté aux contraintes, de ne pas autoriser de glissement, de ne pas générer de déformation osseuse, d'être simple à mettre en place, ça c'est essentiellement pour nous, d'être anatomique, bien entendu d'être cohérente avec l'ensemble, et en fait de ne pas être un obstacle à une reprise, parce qu'effectivement, les échecs existent, sans pour autant qu'il y ait eu un problème chirurgical ou de rééducation. Donc, déjà, une deuxième notion, donc, il est évident que pour des ischio-jambiers, par rapport à ces problèmes de fixation, on n'aura jamais, jamais de rééducation agressive. Les techniques avec adjonction de plastie externe, en fait, donc effectivement, ben, ça va être un petit peu ce qu'on a vu, ça va être soit des techniques osseuses, comme un tendon rotulien, on va rajouter une plastie externe, un fascialata, soit une technique partimode, donc ce qu'on a vu, un DIDT par exemple, où on va rajouter là aussi une plastie externe, et là effectivement, dans la technique que vous voyez, donc c'est une technique DIDT, donc partimode, où la greffe va être utilisée en intra-articulaire, elle va être récupérée en extra-articulaire, et effectivement on va se retrouver avec deux freins au tiroir antérieur et à la rotation interne du tibia, donc la ligamentoplastie intra-articulaire que vous voyez là, et la ligamentoplastie extra-articulaire. Voilà, donc ces trois familles que je voulais vous présenter. Alors, les conséquences physiologiques. Ben, globalement, quels sont les incidents? Quels sont les incidents globaux, importants, et quels sont les incidents un petit peu spécifiques? Bien entendu, en fait, on va être exposé à des poussées d'arthrose pendant la rééducation, avec des douleurs postérieures à la racine du mollet, des douleurs antérieures, des accidents musculaires. Alors, détaillons un petit peu tout ça. La spécificité des techniques en termes de ligamentisation, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ben, effectivement, déjà, le transplant de tendon rotulien va fragiliser l'appareil extenseur. Donc, on voit très très bien donc sur ce schéma l'incidence que ça peut avoir. Par contre, donc, il y a quand même des avantages et des inconvénients à chaque technique. On va se retrouver avec une fixation qui va être solide, avec une intégration rapide du transplant en 6 semaines, étant donné qu'on a une consolidation os-os. Pour la plastie droit interne demi-tendineux et toutes les autres plasties parties molles, effectivement, on va se retrouver avec, premier inconvénient, une fragilisation des ischios jambiers, d'accord? Et deuxième inconvénient, donc une fixation moins fiable avec une intégration lente du transplant, parce qu'on n'est plus en os-os, on est en os-tendon, donc il faut quand même le temps que ça prenne. Et en général, c'est en 12 semaines. Alors, je m'appuierai ensuite pour les douleurs sur le symposium où j'ai travaillé en fait il y a 2 ou 3 ans, la Société française d'arthroscopie, qui était très intéressant, où en fait, sur ces douleurs, ben, il était important d'avoir un démembrement. Démembrement parce qu'en fait, les douleurs post-ligamentoplastie sont nombreuses, il est très important de les différencier. Tout d'abord, déjà les tendinites. Tendinite, tendon rotulien, pas de doigt. Donc, ce qui paraît un peu évident par rapport à la iatrogénicité du prélèvement. Les douleurs osseuses, donc des douleurs forcément au niveau de la rotule ou de la tuberosité tibiale antérieure. Très important, le syndrome fémoro-patellaire douloureux post-opératoire, qui est extrêmement fréquent, hein, si vous voulez, donc, étant donné qu'on a un déficit musculaire contracipital, donc il est évident de se retrouver avec l'équivalent d'un syndrome rotulien, avec un syndrome d'engagement, dysfonctionnement de l'appareil extenseur. Des douleurs neurologiques, on va en parler. Des douleurs des tunnels, kystes, fixation, Le cyclopsyndrome, on en parlera à la fin, c'est quelque chose de très important. Et enfin, catastrophe, mais cependant fréquent en cas de rééducation, je dirais parfois non adaptée, le syndrome neuro-dystrophique, avec un genou qui ne répond plus et qui a tendance à l'inflammation continue, avec des douleurs nocturnes. Et là, attention, il faut, je dirais, tirer la sonnette d'alarme pour tout reprendre avec sans chirurgie. Alors, les douleurs de l'appareil extenseur, ben, effectivement, c'est la complication la plus fréquente. Ce qui est très intéressant, c'est que on nous a enseigné ça, on a tendance à associer les douleurs de l'appareil extenseur au tendon rotulien. Mais non, en fait, en réalité, les douleurs de l'appareil extenseur existent pour les prélèvements de tendon rotulien, mais aussi pour les autres tendons, en particulier les ischio-jambiers, en fait. Dans ce travail qu'on avait réalisé à la Société française d'arthroscopie, on avait donc réalisé une cartographie sur un genou, et la localisation de la douleur était effectivement sur le trajet du transplant pour le tendon rotulien, et globalement autour de la DTA pour les ischio-jambiers. Donc ça, c'est une première notion intéressante. Hein, des ischio-jambiers peuvent donner des douleurs antérieures. Et c'est même, vous allez voir, c'est plutôt relativement fréquent. Et en termes de fréquence, c'est évident par rapport au transplant que ces douleurs vont être plus importantes, et c'est dans notre étude le pourcentage qu'on avait retrouvé. Donc c'est 33% versus 25% en termes de fréquence, hein, si vous voulez. Par contre, c'est intéressant parce que ces douleurs étaient plus intenses pour les ischio-jambiers que par rapport au tendon rotulien. Donc quand elles étaient présentes, elles étaient plus importantes. Alors, globalement, que faire devant ces douleurs d'appareil extenseur? Donc effectivement, on va aménager le programme de rééducation. Donc on va éviter les élévations jambes tendues, nous donner une priorité à la chaîne cinétique fermée, et bien entendu, toutes les thérapeutiques usuelles, anti-inflammatoires locaux, généraux, éventuellement de choc, mais ça s'est discuté, et enfin des soins physiques. Les complications spécifiques au Kenney-Jones, donc effectivement, ça peut aller plus loin, ça peut aller beaucoup plus loin que de simples douleurs antérieures. On peut se retrouver avec carrément des calcifications, avec des ossifications. On trouve ça dans les séries dans 0,2% des cas. On a dans 0,5% des cas, dans la plupart des séries, des fractures de rotule. Donc là, c'est catastrophique. Donc, on se retrouve quand même des fractures de rotule qu'on peut avoir, je dirais, secondairement dans la rééducation, et qu'on peut avoir jusqu'au deuxième, troisième mois. Et enfin, exceptionnel, ça c'est plus parce que ça a été décrit, mais on ne peut pas quantifier, je dirais, du rupture du tendon rotulien. Les douleurs antérieures, donc toujours pour le tendon rotulien, ben effectivement, on évitera, l'élévation jambes tendues, tous les travaux intermittents, et effectivement, on se limitera à un travail analytique du quadriceps, mais on en parlera dans la deuxième communication tout à l'heure, avec aussi des soins locaux. Concernant les ischio-jambiers, on a des douleurs qui vont être en rapport avec le site donneur. Et effectivement, ici, on voit très bien sur ce schéma qu'il y a une branche du nerf saphène qui s'appelle le nerf infrapatellaire et qui est exactement dans la voie d'abord. Et effectivement, on peut se retrouver avec d'une part des douleurs de neuropathie, hein, donc qui sont très fréquentes, et voire même des adhérences qui vont finir par entraîner un flessum parce que le patient en cherchera à éviter cette extension douloureuse qui entraîne en fait cette neuropathie. Enfin, des douleurs un peu plus particulières, ces douleurs, qu'on assimile à un travail particulier de rééducation, c'est les douleurs postéro-externes après ligamentoplastie, qui seraient dues, à la mise en tension du transplant. Et là aussi, attention, ces douleurs sont plus importantes lorsqu'on travaille le quadriceps en chaîne ouverte. Alors, après les douleurs, il y a l'hypoesthésie. Effectivement, vous avez vu par rapport à la iatrogénicité en fait, du prélèvement, on se retrouve en fait avec une hypoesthésie qui est effectivement beaucoup moins importante avec les ischio-jambiers et avec une surface dans notre étude qui était sans différence significative entre les ischio-jambiers et le tendon rotulien. Et une hypoesthésie en fait qui était cartographiée de cette manière sur un genou beaucoup plus médiane pour les ischio-jambiers. Ensuite, l'impact sur le déficit musculaire. Alors, il est évident que ça va engendrer une diminution de la protection dynamique de la greffe. On va se retrouver comme premier risque, effectivement, entre le 3 et 6e mois, un allongement initial du transplant, donc une, à terme une efficacité, et sinon, vraiment à distance, un risque de rupture itérative. Pour les ischio-jambiers, le déficit, effectivement, concerne les ischios lui-même. Pour le tendon rotulien, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en plus de ça, on peut avoir un déséquilibre avec une altération du ratio quadriceps-ischio-jambier. Le déficit musculaire, donc pour le tendon rotulien, alors c'est intéressant parce que on a réalisé une étude statistique et on n'a pas trouvé de corrélation entre ce déficit musculaire et le sexe, l'âge, la laxité ou les douleurs. Par contre, on a retrouvé effectivement une corrélation entre, le déficit musculaire et le greffon prélevé. Et effectivement, en cas d'atteinte du tendon rotulien, on avait en fait un déficit essentiellement sur le quadriceps. Pour le DIDT, on a retrouvé aucune corrélation là aussi par rapport au sexe, l'âge, le type de laxité et douleur. Et par contre, on a retrouvé une forte corrélation entre le déficit musculaire et le greffon prélevé. Et là, bien entendu, on a les ischios jambiers qui étaient majoritairement concernés, mais pas que les ischios jambiers, mais aussi le quadriceps et les rotateurs internes. Alors, quelque chose qui est assez fréquent, je dirais, et qu'on vit bien entendu avec les ischios jambiers, c'est les accidents musculaires. Les accidents musculaires, en fait, ils vont être spécifiques à ce type de prélèvement. Donc ici, en fait, on a, on est au laboratoire d'anatomie, donc avec un patient qui est en décubitus dorsal, et ici, en décubitus ventral. Enfin, quand j'ai un patient, c'est plutôt un cadavre. Donc c'est uniquement pour vous localiser les douleurs. On voit ici le droit interne, hein, qu'on voit très très bien. Donc c'est des douleurs, finalement, qui vont être relativement médiales et postérieures, en fait, ici, pour le demi-tendineux. Et effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et qui s'appelle de la simple gêne, donc la gêne postérieure. Donc on a vu tout à l'heure quand même la iatrogénicité de ce tripper qu'on va mettre dans la cuisse postérieure, jusqu'au pseudo-claquage. Et on a régulièrement, je dirais, des cas de panique où effectivement le patient a cette douleur postérieure, qui est souvent d'ailleurs un mal pour un bien, parce qu'ensuite ils vont très bien après. Mais il suffit qu'il y ait une indication d'échographie avec malheureusement parfois un radiologue non habitué, ne connaissant pas les antécédents, et tout de suite on parle, je dirais, d'arrachement musculaire, alors qu'il y a quand même une iatrogénicité qui a été réalisée quelques semaines ou quelques mois avant. Alors effectivement, que fait-on devant ces accidents? Là on a tendance à faire une pause dans la rééducation, enfin du moins dans la rééducation proprement dite, mais c'est des patients qu'il faut garder quand même pour des soins, de cryothérapie, de compression veineuse et des soins locaux. Alors, donc par rapport justement à ces ischios jambiers, donc il faut respecter ces ischios jambiers, donc il y a une prudence sur la mobilité et c'est pour cela et c'est très intéressant, la communication de fin de matinée était très intéressante et pour contribuer à une question qui a été posée en fin de matinée, dans ces cas-là, enfin de façon pour cette technique-là, le travail en chaîne cinétique ouverte, à mon sens, va être contre-indiqué pendant le premier mois et on en reparlera dans la deuxième communication. Pour les complications spécifiques aux plasties mixtes, donc avec adjonction d'une plastie latérale, ça se résume globalement aux mêmes complications parce qu'elles concernent justement les mêmes techniques, mais en plus de ça, on a des hématomes très importants qu'il faut prendre en charge avec les soins habituels anti-œdématomes. La synthèse de tout ça, donc de la chirurgie à la rééducation, cette rééducation est enfin consensuelle. Après beaucoup d'errances qui ont été liées, en fait, bien entendu, à la complexité biomécanique du genou, à cette dualité entre le quadriceps et le transplant qui est utilisé, et aux techniques chirurgicales qui sont variées et effectivement qui sont évolutives, surtout ces 10 dernières années. La ligamentoplastie, tout le monde est d'accord maintenant pour dire que c'est une rééducation qui doit être précoce, bien conduite, sur un patient motivé, et adhérent au traitement. Un petit mot sur les amplitudes articulaires, parce que je me devais d'en parler aussi. Effectivement, la mission extension 0 degré, c'est une priorité, bien entendu, mais attention, je crois qu'il ne faut pas forcer, parce qu'on a vu quand même qu'on a des amplitudes qui mettent en tension le greffon. Le déficit initial, il doit être géré, effectivement, avec des techniques ontalgiques de rééducation, des étirements. Par contre, ce déficit peut se pérenniser et devenir, je dirais, organique, réel. Et on se retrouve avec un flessum articulaire vrai. Et là, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre correspondant chirurgien pour regarder s'il n'y a pas un conflit entre le transplant et la chancrure. Donc, une simple radiographie permettra de voir les tunnels. Et effectivement, un tunnel trop antérieur entraînera un problème mécanique avec un conflit avec les chancrures. Une IRM permettra de voir s'il n'y a pas une fibrose, donc une hypercicatrisation, c'est ce qu'on appelle le cyclope syndrome, donc qui peut parfois nécessiter une intervention chirurgicale. Et c'est pour ça qu'il est très important d'éviter, on en a parlé, des postures forcées en extension qui vont entraîner une distension du transplant. Le take-home message, comme l'ont fait nos amis anglo-saxons ce matin, donc uniquement des principes. Le premier principe, ce n'est pas le patient qui s'adapte à la rééducation, mais la rééducation qui doit être adaptée au patient, avec un programme qui doit être personnalisé en fonction de la douleur, du gonflement et de l'aspect inflammatoire, comme on a pu le voir. Deuxième principe, le protocole de rééducation et fonction de la technique chirurgicale est effectivement exigé d'avoir le compte-rendu opératoire afin de savoir exactement ce qu'il faut faire ou pas faire et vous adapter à la situation. Troisième principe, il faut définir des objectifs par phase et s'interroger sur les raisons d'une mauvaise évolution et apporter une réponse adaptée. Attention à ces douleurs nocturnes, attention à ces patients qui sont anormalement douloureux, attention aux phénomènes inflammatoires ou dystrophiques. On passe à la phase suivante quand les objectifs de la phase en cours sont atteints. Je crois qu'on peut dire que la rééducation accélérée entraîne une plus grande accidentaire du genou. Tous les auteurs sont d'accord maintenant pour le dire. Je vous remercie de votre attention.